Chapitre 8. Maxime de Portier n'a jamais compris pourquoi, après s'être si hardiment compromise par un billet qui, dans un procès en divorce, eût arraché une condamnation aux juges les plus indulgents, Nicole de Moniaux l'avait laissé attendre vainement toute une après-midi, sans venir et sans l'avertir. Il a encore moins compris qu'il ait trouvé la porte condamnée quand il est allé chez elle, après cette séance de mortifiante déception, ni qu'elle lui ait parlé avec le dernier des mépris lorsqu'il l'a rencontrée, et qu'il a essayé d'avoir avec elle une explication sur cette volte-face soudaine. Sa mauvaise humeur se vengerait volontiers de cet étrange procédé, qu'il qualifie fort nettement, sinon élégamment, de terme énergique, de crasse, en montrant à ses intimes la petite dépêche bleue et en l'accompagnant d'un sourire révélateur. Mais il appréhende d'avoir avec Albert de Moniaux une affaire où, vraiment, même au regard de ses camarades de club, il aurait trop mauvaise posture. Il se contente, quand le nom de Madame Moniaux passe dans la conversation, de dire dans son langage « Quelle grue ! Et que je suis content de les avoir plaqués, elle et son raseur de mari !» Ce qui ne l'empêche pas d'être très mal à l'aise et, pour tout avouer, très petit jeune homme lorsque le hasard le met en présence de Madame Janson. S'il ne peut pas préciser les motifs du revirement absolu de Nicole, il a trop de bon sens pour ne pas faire remonter le principe premier de cette rupture à ses propres discours répétés par Bassini. Mais pourquoi encore cet étranger s'est-il mêlé de cette affaire ? Maxime peut d'autant moins répondre à cette question que le mystérieux dénonciateur a lui-même disparu absolument. Il ne l'a plus jamais entendu mentionner, ni au cercle, ni dans le monde. Il n'est d'ailleurs pas le seul à se demander le mot de toutes ces énigmes. Albert de Moniaux n'est pas moins étonné que lui de la subite soumission constatée dans le caractère de Nicole, et cela le lendemain même du jour où elle s'était montrée la plus rebelle. Il l'a vu rentrer, au retour de cet entretien avec Bassini, qu'il ignorera toujours, si totalement, si miraculeusement transformé, que c'était à ne plus y croire. Elle lui a demandé pardon de sa révolte, avec un accent qu'il ne lui connaissait pas, et elle l'a supplié qu'il emmenât, qu'ils partissent tous trois, elle, lui et leur petit garçon, faire un grand voyage, en lui jurant que jamais plus elle ne le rendrait jaloux. Il a cédé à cette demande et ils ont passé l'hiver en Égypte, d'où Nicole est revenue enceinte. Ses amis, pour la taquiner, lui rappellent ses protestations de n'avoir jamais un second enfant. Elle se plaignent qu'elle ait changé de caractère et perdu sa gaieté d'autrefois, plainte auxquelles M. Janson fait volontiers écho. « Je ne sais pas ce que peut avoir Nicole, » dit-il à sa femme. « Son ménage va de nouveau bien. » Nous en avons la preuve et on croirait qu'elle a une idée qui la ronge. Son état l'éprouve beaucoup, répond évasivement Madame Janson. Une fois délivrée, elle redeviendra gaie comme auparavant. Mais la mère sait bien qu'elle ne dit pas la vérité et que l'insouciante et enfantine Nicole est morte le jour où elle a compris qu'elle n'était pas la fille de celui qu'elle croyait son père et que sa mère n'avait pas été une honnête femme. Il n'y a qu'une personne pour qui ces complications seraient intelligibles, c'est Bassini. Mais il est retiré de nouveau dans son château de l'Aveyron, auprès de ses morts, et il se punit de n'avoir pu cacher à sa fille le secret de sa naissance en s'interdisant de la revoir. Du moins, il sait qu'elle est sauvée, et pour toujours, du péril de ressembler à sa mère. Nicole a-t-elle trop souffert de cette révélation et s'est-elle jurée que la possibilité d'une telle douleur serait à jamais épargnée à son enfant ? La vue subite et presque foudroyante de la plus triste des vérités a-t-elle flétri et brisé en elle cette dangereuse fleur d'illusion et d'enfantillage dont elle se grisait ? A-t-elle subi, en face de son vrai père, un de ces hypnotismes de suggestion qui substituent réellement la volonté d'un autre à notre volonté ? Qui peut savoir ce qui se passe dans le cœur d'une fille, obligée soudain de juger, de condamner sa mère, et qui doit cesser de la respecter sans pouvoir cesser de l'aimer ? Paris, octobre 1897.